matter? Is everything all right? That's okay. I've got just the right thing for you. CKUT 90.3
Bonjour à tous, vous êtes sur les ondes de CKUT 90,3 FM, c'est le lendemain de la veille. Mon nom est Nelson, je suis accompagné du grand, du seul unique Marc-André.
Hey, merci, je me sens comme à la lutte, on dirait que tu m'annonces, puis là, il faut que j'aille faire un marteau.
Let's get ready to rumble! Vas-y, ouais, un marteau.
Dans le coin droit, pesant 160 livres mouillés.
Oui, c'est bon, ça, c'est bon.
Hey, tu me prends au dépourvu, là, dans même une improvisation sur la lutte.
On aime la lutte. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une émission spécialisée en lutte.
Oui, la lutte.
Et non, c'est pas vrai. On se spécialise en...
Le lendemain de la veille.
Timbre. Collection de timbres.
C'est quoi, non?
Philatélie.
C'est un nom de maladie.
Bienvenue au rendez-vous des philatélistes. Non, on blague, Marc-André. On vient d'écouter une pièce de...
Los Kung Fu Monkeys. De l'album, c'était un vinyle. Il est super cool, ce vinyle-là. Il est bleu, translucide. Fait que je vois mon tapis en dessous. Et c'était Rude Boys Rockers. On salue tous les rockers et tous les Rude Boys qui nous écoutent ce matin. Où que vous soyez.
Les skankers.
Et les punkers, les rockers. Skank it to the beat. C'est paru sur Stomp Records en 2015. Et il y a un lien canadien, mais il y a un lien assez latino. Les membres viennent... c'est pas mal des noms latino. Il y a des tunes, des titres. C'est Masquerido, TG Esmioga... Bombs of Waste en anglais, tout ça, mais il y a un petit côté Latin flavor à ce groupe ska qu'on peut dire qui a un lien avec le Canada, mais je peux pas vous en dire plus. Mais
ils sont pas canadiens nécessairement.
Exact.
Ils sont signés avec Stomp Records, qui est un label montréalais.
Exactement.
Connu par, en fait, qui est tenu par les gens du groupe Planet Smashers?
Oui.
Je crois bien?
Oui, et compagnie, là. Cette gang-là, exactement. Puis, mais c'est pas juste du ska. On pense tout le temps que c'est juste du ska, mais ils ont du. C'est eux qui avaient aussi signé les Gutter Demons, qui sont plus psycho rock and roll à Billy.
Oui.
Puis tout ça. On va en faire jouer tout à l'heure un autre groupe qui sont sur Stomp Record, qu'on a déjà fait jouer. Cayman and the 45 ont sorti un nouvel album et je me le suis procuré.
T'as fait ça, toi?
Ben oui, je fais ça encore.
Tannant?
Oui.
Cayman and the 45, c'est un bon groupe qu'on a vu à quelques reprises en live.
Oui.
à Montréal, à différentes occasions, des petits festivals.
Ouais.
Bien sympathique, oui.
On espère les voir sur la route. Là, les concerts sont de retour. Fait que ça nous excite. Il y en a plein qui s'annoncent. Il y en a d'autres qui s'annulent, malheureusement. Pour tous ceux qui voulaient aller à Slam Dance, aller dans le Trash Zone avec DRI, c'est malheureusement, ben vous le savez déjà là, quand vous allez écouter l'émission, que c'est cancellé. Mais il y a d'autres bons groupes. Il y a DOA, les Dead on Arrival de l'Ouest canadien, qui vont venir fouler des planches montréalaises sous peu. Fait que,
au mois de juin, donc
achetez-vous bien.
Le 19 juin, sauf erreur.
Au Ritz?
Au Ritz, au bar Le Ritz, sur Jean Talon.
Ouais.
Et, ben oui, DRI
oui.
ont annulé,
oui.
pour ceux qui ne le savaient pas.
Oui.
Et pour ceux qui ne connaissent pas DRI, est-ce que tu peux les décrire?
Je peux dire ce que c'est. Que ce que peut dire l'acronyme, mais je ne sais pas s'il est trop tôt. Les Dirty Rotten Imbeciles.
OK.
Mais non, c'est un groupe qui était un groupe punk hardcore américain qui ont fait un. Ben, qui ont joué du punk, du hardcore, et ils ont fait un album à un moment donné. C'était leur deuxième officiel. Ça s'appelait Crossover.
Oui.
Et Crossover, c'est très important. C'est devenu le nom d'un mouvement. C'est le mélange de deux tribus. Le mélange des punk hardcore avec les metalheads. Fait que ça a fait un espèce de mélange de l'agressivité puis la rébellion du punk et la pesanteur et le côté heavy du metal. Ça a fait le crossover, puis il y a le trash metal à côté qui est tout près. Fait que ça, il y avait tous les groupes dans ce temps-là, il y avait des acronymes. Tu avais SOD, les Stormtrooper of Death, les MOD, Method of Destruction. Tu avais COC, Corrosion of Conformity. Fait que c'était bien à la mode. Quand tu voyais un nom avec des acronymes, c'était sûr que c'était du crossover.
C'était bon signe.
Ouais. Mais DOA, c'est pas du crossover, c'est vraiment du punk. Là,
du punk.
Ouais.
Puis c'est des pièces aussi qui sont assez courtes, là, comme à la punk.
Ouais.
Donc de 2 minutes, 3 minutes. Max.
Rarement un solo de guitare, parce que tu sais, dans le métal, il y a tout le temps un solo après 2 minutes, il y a un solo qui part, mais eux, c'était assez rare. Il y a des pauses de guitare, mais il n'y a pas vraiment de solo. Puis c'est straight to the point. Des fois, ils vont chanter deux fois le refrain, puis la tune est finie. Ils ont des tunes de 53 secondes. Ça te donne une idée.
Exactement.
Fait qu'on est très tristes. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux sont tristes de cette nouvelle-là, mais on va se reprendre. Même les Dayglo Abortion, je pense qu'ils ne le savaient pas, mais là, ils le savent, là, mais il y avait un podcast avec Murray, puis il parlait qu'il y avait une belle surprise, qu'il partait en tournée canadienne pour fêter, c'était le 40e anniversaire de DRI.
Oh.
Ça fait quand même longtemps que ça roule.
Ouais.
Moi, c'est un des groupes avec Motorhead les plus forts que j'ai vus. Côté décibels, là, le son.
Okay.
C'était au Spectrum de Montréal. C'était pour l'album Trash Zone. C'était la tournée de Trash Zone. Et c'était Sick of It All qui ouvrait. C'était la première fois que je voyais Sick of It All.
Ouais.
C'était Sick of It All. C'était très fort. Il y avait un autre groupe en premier. Deuxième, Sick of It All, puis DRI pour Trash Zone. Puis là, il était rendu... DRI, là, il était rendu vraiment crossover. Même, il était dans le trash metal. Puis c'était très fort. Des grosses Marshall. Le drum qui sonne fort, ça trashait, ça slam dansait, ça stage divait. C'était une crowd aussi, un mélange de... La pochette de cet album-là, c'est un dessin et t'as des jeunes qui slam dance avec des mohawks, t'as des rockers avec les cheveux longs, t'as des skins, tout ce monde-là mélangé ensemble puis qui sont dans un pit. Puis pour ceux qui savent pas, c'est qui DRI, dernier indice, là, c'est un des logos les plus emblématiques du mouvement crossover. C'est comme un, tu sais, les bonhommes olympiques, là, très silhouette. Là, très...
Un genre de bonhomme allumette, mais un peu comme les bonhommes sur les traverses de piétons. Ouais.
Exactement, les petits écoliers, tout ça.
Ouais.
Ben c'est justement ça. C'est un losange, il est orange souvent, il est marqué trash jaune, puis t'as un bonhomme silhouette qui est en train là, de comme slam dancer, il est sur le côté, puis il est en action. Là. Il était ready to skank, ready to rumble. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est un show qui va peut-être être reporté dans un futur proche, on se le souhaite, mais il y a plein d'autres bons shows. Puis il y a des festivals aussi qui s'en viennent. Fait qu'on reste à l'affût. En parlant de festival, je pense que tu voulais annoncer quelque chose.
Ben oui, toi.
Ouais.
J'ai une annonce spéciale.
Spéciale, spatiale.
Non, mais sans blague. Je vais sortir mon téléphone. Je vais trouver la page de mes notes. Il s'agit du Festival de BD de Montréal. Donc, le FBDM.
D'accord.
À ne pas confondre avec BDSM. Non, c'est blague. Non, mais le Festival de BD de Montréal, ce qui aura lieu du 27 au 29 mai, donc ça passe vite,
ouais.
Soyez-y. Cette année, le festival va être sur la rue Saint-Denis, donc ça va être extra cool.
Oui, c'est une première, parce qu'habituellement, c'est au Parc La Fontaine, au l'espèce de chalet, là, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Exactement.
Ouais.
Donc, c'est tout nouveau pour eux. Et il y a comme invité spécial, il y a nul autre que Julie Doucet, grande BDiste style underground, là, qu'on a connue dans les années 90-2000.
Exactement, 88.
Et fait à noter, Julie Doucet qui vient de remporter, il y a seulement quelques semaines, au Festival de BD de Angoulême, le Grand Prix. C'était la première fois qu'un artiste québécois remportait ce prix. Et non, maintenant, c'est Julie Doucet qui l'a remporté. Donc, le festival du 27 au 29 mai, Festival de la BD de Montréal, il y aura 200 artistes, une cinquantaine d'expositions et 20 artistes internationaux. Donc, c'est un rendez-vous. Nous, ici à l'émission, on est des grands fans de bande dessinée. On en parle tout le temps.
Occasionnellement.
Le matin, le midi, le soir, la nuit aussi. On s'appelle pour
oui.
Hey, t'as-tu lu telle BD? Puis, ben écoute, je sais pas quoi dire d'autre. Il y a plein d'invités, des noms que je connais pas tous. Peut-être que toi, tu vas les connaître. Si je te dis des noms comme ça...
Vas-y.
Là, je lis l'article de Radio-Canada, mais j'essaie de résumer ça. Jean-Paul Haidt.
Ben oui, il a fait une très belle bande dessinée sur qui a gagné des prix, justement. J'en ai pas parlé, mais je voudrais en parler. En tout cas, on va revenir, mais oui, c'est il a fait une bande dessinée à un moment donné. Il y a un trou dans la bande dessinée, dans le carton de la bande dessinée.
Oui.
Et tout le concept de la bande dessinée, il y a ce trou-là.
Dans les images.
Oui, mais dans l'objet en tant que tel aussi.
C'est vraiment génial.
Ouais,
Jean-Paul Haidt, qui, sauf erreur, a aussi fait récemment une bande dessinée mégantique, un train à la nuit.
Ah, OK, ça, je l'ai vu passer, je ne l'ai pas lu encore.
C'est une nouveauté, puis qui a aussi également été primé à Angoulême en mars dernier.
Moi, je pense que c'est l'autre avant qui s'appelle, je ne sais pas si c'est Le Petit Cosmonaute ou quelque chose comme
ça. Oui, exactement.
Oui, c'est celle-là que je voulais
le
parler.
Le Petit Astronaute.
Ah, Astronaute, OK. Pardon.
Jean-Paul Haidt.
Oui, super bonne bande dessinée à lire, absolument.
Il y a aussi des artistes du Brésil, du Chili et de l'Italie. Brésilien, il y a Marcelo Quintanilla.
Ah, avant.
Et un autre monsieur, Marcelo Lelis, auteur de En fuite.
Moi, des fois, les noms, j'y retiens moins, mais quand je vois leur dessin, quand je vois la bande dessinée, là, ça sonne une petite cloche. Juste pour mentionner, la BDiste québécoise, comme tu disais, elle devient la troisième femme dans l'histoire du festival à obtenir cet honneur. Le prix d'Angoulême, là, c'est vraiment la mecque de la bande dessinée. Ça se passe en Europe. Et avant elle, il y a eu la Française Florence Sestak en 2000. Il y a eu la Japonaise Rumiko Takahashi en 2019. Et la Québécoise Julie Doucet devient la troisième femme, première Québécoise à obtenir, comme tu disais, le Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Puis quand elle a ça, elle était sous le choc. Elle ne l'attendait pas, là, pas du tout. Et là, qu'est-ce qui est drôle? Moi, je voulais en parler et tout arrive en même temps. Les astres sont alignés. Il y a l'association, qui est une maison d'édition de bande dessinée, a fait un recueil de, je veux dire, à 90 % de tout ce qu'elle a publié. Et je le tiens entre les mains, c'est presque une bible, c'est vraiment pesant.
C'est vraiment un gros volume.
Ça s'appelle, l'autrice c'est Julie Doucet, on le mentionne, et ça s'appelle Maxi Plot. Et elle, ce qu'elle faisait, elle faisait des petits fanzines, au début c'était photocopié, ça s'appelait Dirty Plot, et c'était en noir et blanc, c'était auto-fiction de qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et les dessins sont très chargés, beaucoup de détails. Les cases là, sont tellement remplies. Il y a beaucoup de détails. C'est souvent en noir et blanc.
Ouais, c'est souvent rempli de noir en arrière-plan. En fait,
oui.
Quand
oui.
Il y a comme pas de,
oui.
Il y a pas de ciel, c'est du noir, en fait. C'est...
Oui, et là, ça parle de tous ses désirs, ses fantasmes, ses peurs, ses craintes, tout ça. Et des fois, elle a aussi une espèce de d'alter ego animal. Je dirais pas son alter ego, mais un personnage qu'elle aime dessiner, qui est un monkey, mais que c'est un living dead monkey, mais c'est un chat. C'est un chat avec des bottes rouges qui se promènent. Fait que puis c'est très rock'n'roll. Fait qu'on la félicite. On est très content parce qu'on avait parlé dernièrement que elle avait arrêté de faire de la bande dessinée. Elle se consacrait plus un peu à la sérigraphie. On l'avait perdue de vue. J'avais parlé qu'elle avait sorti une espèce de livre que j'ai pas encore vu, qui est plus des dessins, qui a pas de phylactère. C'est juste des dessins, des visages, des close-ups. Sont toutes comme agencés un par-dessus l'autre, tout ça. Mais là, c'est vraiment tout ce qu'elle a fait, sauf Madame L'Affaire Paul, qui est une bande dessinée à part, qui avait paru dans le journal ici. Je ne sais pas si tu te souviens de ce journal-là,
ouais.
L'hebdomadaire.
Oui, un hebdomadaire ouais. Gratuit, culturel.
Oui, fait qu'il y avait tout le temps un strip de comic de elle dans, là-dedans. Puis là, elle aussi, elle a fait des espèces de collages bizarres. Puis elle écrit aussi du texte vraiment là, ça part de gauche à droite, de bas en haut. Elle aimait beaucoup là, comme elle est très créative. Fait qu'elle avait comme il y a comme des dans le livre là, que je vous parle, Maxiplot, il y a des collages, des montages et des. Elle s'amusait à faire des lettrages. Et on dirait que c'est comme des je m'en dis des photocopies, mais là, c'est pas des photocopies.
C'est comme des photos de ses cahiers de notes, on dirait.
Exactement, oui, de son black book, là, de son livre de pratique. Fait qu'elle est souvent très expressive. Puis ça, c'est même dans des cahiers lignés. Là, ils nous en ont donné beaucoup pour notre argent. Et là, je vais raconter une anecdote personnelle.
Ah ouais donc?
Je ne connais pas Julie Doucet.
Non.
Mais, donne-moi 2 secondes.
Oui. Marc-André va ramasser ses... son recueil de notes,
ouais,
d'anecdotes de vie.
De vie, ouais, c'est tout boudiné, c'est tout en spirale. Le pire, c'est que c'est vrai, mais non. Écoute bien ça. C'est qu'à l'automne 2009, j'ai fait un atelier de bande dessinée à l'Université de Montréal.
Ah ouais, t'as fait ouais. Ça, toi?
J'ai fait ça. Je salue le professeur, M. Dominique Poulin.
T'es-tu bon en dessin, toi?
Pas du tout, mais je barbouille, fait que j'ai décidé d'en faire. Fait que c'était un cours. À chaque semaine, on faisait des dessins. Et après un certain moment, faut les remettre à la fin de la session. C'est un cours SAC, là. SAC, ça veut dire service, activité culturelle.
Eh bah, je pensais qu'il fallait censurer le mot que tu viens de dire. Là.
Non, c'est pas un SAC, c'est un SAC.
Comme dans...
Sac.
Service?
Service, activité culturelle aux
okay.
Étudiants.
Je comprends.
Ouais. Puis là, quand je m'en rappelais pas, honnêtement, je suis allé le chercher ce matin, je l'ouvre et je me rappelais pas, le professeur avait fait l'honneur de la première page, le premier artiste, la première bande dessinée, c'est Bibi. C'est moi.
C'est toi?
C'est moi. Puis j'avais fait une bande dessinée qui s'appelait Supaipa Wawa. Ça veut dire en Quechua, la langue... autochtone au Pérou.
Okay.
Une des langues, parce qu'il y a la Mara aussi. Spaipa Wawa, c'est le fils du diable.
OK.
Fait, moi, j'avais fait une bande dessinée muette en noir et blanc, et c'est un petit peu la colonisation des Espagnols dans une terre lointaine en Amérique latine. Et là, ben, il y a des abus, il y a des guerres. Fait que j'avais fait ça. Mais moi, je me suis fait beaucoup d'amis dans ce cours-là. Et j'ai parlé avec un auteur, il a fait la bande dessinée qui s'appelle Dossier Von Braun. C'est super bien dessiné, c'est un peu futuriste.
C'est très bien dessiné.
C'est du haut calibre, tu sais, pour des étudiants. Et là, je vais taire le nom de famille, mais on va l'appeler PL. PL, j'étais assis à côté de lui. C'était un monsieur. Il était un peu plus vieux que moi. Il commençait à grisonner. Moi, dans ce temps-là, je commençais à grisonner. Fait qu'on on était comme des seniors en cours du soir. Et on commence à parler. Il me dit, tu connais-tu la bande dessinée au Québec? Oui. Tu connais-tu la bande dessinée underground au Québec? Ben, je dis, à un certain point. Il dit, connais-tu Julie Doucet? Ben, je dis, oui, Dirty Plot, ta-ta-ta. Fait que l'affaire Madame Paul, tout ça. Il dit, t'as-tu déjà lu une bande dessinée qui parle d'un de ses chums? Là, je dis, ouais. Celui qui lave sa vaisselle dans son bain. J'ai dit, ouais. Il dit, c'est moi. Fait que j'ai rencontré l'ex de ce gossip-là. On fait du potinage ce matin, mais j'ai rencontré...
un ex de Julie Doucet.
Un ex de Julie Doucet. Qui apparaît dans une de ses histoires.
Dans un des maxi-plots. Deux des plots,
exactement. Parce que c'est deux frères qui sont colocs. Puis il y en a un qui est parti. Puis là, Julie commence à fréquenter ce garçon-là. On va l'appeler PL. Et eux, pour l'appartement, c'est un bordel. C'est cochon, il y a du stock qui traîne partout. Fait qu'elle, dans la bande dessinée, elle s'est gâtée. Il y a du stock partout, c'est le bordel. Et pour économiser l'eau chaude, ils prenaient leur bain. Puis après ça, ils gardaient l'eau.
Pour laver la vaisselle. Excellent.
Excellent.
Vraiment, là.
Fait qu'on sait pas si c'est vrai ou pas vrai. Bon appétit, tout le monde.
Moi, je salue ça.
Je salue ça. C'est l'écologie avant tout le monde.
Ben ouais. Écoute, c'est de l'eau chaude, là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils vivent?
Ça coûte cher. L'hydro a augmenté, là. On n'a pas le choix. Faut économiser.
Il y a bien des trucs comme ça qu'on devrait faire dans nos vies. Puis que, tu sais.
En prenant ma douche ce matin, j'aurais pu laver...
Laver ta vaisselle?
Ben oui.
Mais non, mais écoute, c'est vraiment une super anecdote qui était rencontré un personnage qui était en réalité quelqu'un de la vraie vie de l'entourage de Julie Doucet. Mais comme tu disais plus tôt, ben, elle, dans ses BD, c'était des récits un peu autobiographiques. Et grâce à son grand talent, elle a réussi, avec toutes ses années de carrière, à remporter un prix important en bande dessinée.
Oui, puis je pense aussi, je la félicite encore, vraiment, chapeau. Si vous avez jamais lu ça, c'est une des premières instigatrices, autrices qui est féministe avant son temps.
Oui.
Fait que c'est vraiment important. C'est une pionnière. C'est du talent local qui s'est exporté aussi à l'extérieur, mais allez encourager ça. Et le livre que j'ai entre les mains, là, comme je vous dis, c'est une bible. Vous avez tout ce qu'elle a fait. Et moi, je me suis replongé là-dedans. J'en avais lu pas mal. Je me passionne plus pour le dessin que le récit. Le récit, tu sais, quand tu l'as lu une fois, puis tu sais un peu quel univers elle a, moi, ça me surprend plus. Mais regardez le niveau de dessin puis tout ça. Puis elle se met souvent en... Ben, elle se met tout le temps en scène, mais elle se met tout le temps dans des situations un peu bizarres. Et, tu sais, elle a fait son cours au Cégep du Vieux-Montréal. Dans la vraie vie, je pense que c'est vrai, mais en tout cas, elle en parle là-dedans.
Okay.
Puis la critique qu'elle a sur les autres étudiants en art et sur ses professeurs qui sont blasés puis tout ça, juste ça, ça vaut le détour.
OK.
Hey, je faisais encore là, le recueil de 2009. J'essaie de trouver... je m'étais fait un ami que je vois souvent dans des concerts. Et j'essaie de retrouver sa bande dessinée. Fait qu'on va aller en musique, mais lui avec, il avait un super coup de crayon. Je pense que c'était une cohorte avec vraiment du talent. Et sinon, il y avait des scénarios super, super intéressants. Fait que... bande dessinée.
Donc, on rappelle, le livre que tu avais entre tes mains, c'était Maxi Plot de Julie Doucet, grand recueil, et le Festival de la BD de Montréal qui aura lieu à la fin du mois de mai sur la rue Saint-Denis. Allez-y. Et peut-être que vous aurez l'occasion de rencontrer Mme Doucet en personne.
Oui, emmenez vos... c'est vrai, il y a des auteurs que vous suivez. Emmenez votre bande dessinée. Ils peuvent vous faire une auto-dédicace. J'ai de la misère ce matin. Un petit dessin, parfois, et c'est sympathique de les rencontrer, de discuter avec eux.
Super. Donc, on continue en musique, les amis. Attachez votre tuque.
Avec la broche, ça part.
Estaba chile en la montaña con el festín y pana, sin hacer nada, fumando, rolando mota, la tarde del tam-tam con sol redomingada, bromeando, platicando de todo y de nada, la hambre nos entró y luego a discutir, vámonos a comer o
quizás descubrir ombligo vacío. Quiere comer bien, sin ganas por legumbres ni cosas de sartén. ¿Qué te parece? Algo al carbón. Ese spot portugués que huele bien cabrón. Claro, hermano, vamos, uno, dos. No hay nada que sabe como Roma 2. Chico, a mí me gusta Roma 2. A mí me gusta Roma 2. A mí me gusta Roma 2. Ya, llegamos al lugar empujando la puerta, abriendo el apetito, perfume barbacoa. 20 minutos, quedamos en la fila, luego nos atendió la super patrona. Oui, oui, chérie, te pongo más salsita. Claro, mi amor, me yo frango con papita. Y esto es pa la propina. Cajera, por favor, dame pan y una natas. Obrigado y también hazte logo. Difícil resistir cuando estás en el plazo. 115 calle Rachel es el pollo de Romados. No se puede test, chica. A mí me gusta Romados. A mí me gusta Roma 2. A mí me gusta Roma 2. Chill.
Bienvenue au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce de notre ami Bougat.
Oui, monsieur.
Avec la pièce Romados.
Romados, tu sais, c'est quoi le Romados?
Ben, c'est le fameux restaurant portugais sur la rue Rachel à Montréal.
Un morceau de poulet pour toi, mon
miam.
Miam, miam. Il est super
là,
bon.
J'ai un gros déjeuner tantôt.
Oui, moi aussi.
J'ai plus de place. Oui. J'ai mangé deux gros.
Grosse affaire. Tu vas prendre des Pepto-Bismol parce que tu vas avoir des refus.
Eh, Paulay, on a trop mangé avant l'émission, Marc-André. Ouais, ça n'a aucun
sens.
On est
des cochons. Je ne sais même pas comment on fait pour tenir debout. Fait que c'était Bougat sur, on va dire, son premier album. C'est pas son premier album, mais c'est son retour. Moi, j'avais Pâte de Salamandre. Et là, c'est Bougat El Dorado Sunset, El Gran Baile de las Identidades. Et c'était Romados, le fameux poulet portugais. Fait que le cocorico, j'espère qu'il vous a réveillé. Quand tu es en Amérique du Sud, même en ville, il y a tout le temps un coq à quelque part qui chante. Il est 5 heures du matin. Tu veux tuer les voisins, tu veux tuer le poulet, tu veux tuer le coq. C'est même pas une blague. C'est vraiment. Je sais pas qu'est-ce que le monde font avec un coq en ville, c'est mais ça réveille.
Ça sert à faire reproduire les poules, je pense. Avant qu'on aille en pause, voulais-tu parler d'un film?
Peut-être au retour, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Bon. Moi, je voulais juste dire que M. Bougat, que je suis sur Instagram, avait une émission de radio, radio/podcast. Toute émission de radio maintenant est en rediffusion. Ça s'appelait « En espagnol, s'il vous plaît ». C'était sur le CFLX, le 95.5 FM à Sherbrooke.
Hop, pas là, tu m'as fait peur.
Oui.
OK. C'est à Sherbrooke, donc c'est correct.
Oui. Moi, j'aime bien Sherbrooke parce que quand je vois, il y a deux disqueurs. Là, il paraît qu'il y en a un qui va fermer. Ça me fait. Le Musique Cité va fermer. Et moi, j'avais trouvé des perles là-bas. Et un professeur de musique, de guitare, est allé à Sherbrooke, puis c'est lui qui m'a annoncé la nouvelle. Et lui aussi, il dit à chaque fois qu'il va à Sherbrooke, il va là, puis il trouve tout le temps tout. Moi, j'avais trouvé un Emerson, Lake & Palmer, du prog. Ça se trouve, là, mais en bon état, beau, bon, pas cher, avec d'autres affaires. Fait que, encouragez vos disquaires locales. C'était mon message d'intérêt public, parce que c'était le RSD. Si vous ne savez pas c'est quoi le RSD, c'est le...
Record Store Day.
Yes, et c'est passé. Fait que vous l'avez manqué. Nous autres, on vous annonce après que
l'événement. Mais on vous dit que à tous les jours, c'est la fête des disquaires locaux.
Exactement. Fait qu'aller en acheter. Il y avait des disquaires qui ne participaient pas cette année autant au Canada qu'aux États-Unis parce que pour eux, c'est à chaque jour. Puis pour des collectionneurs, à chaque jour, tu passes au disquaire. Checker qu'est-ce qu'il y a, puis l'acheter. Fait que, il n'y a pas de journée spéciale. Every day is a record.
On va aller, c'est l'heure de la pause, Marc-André?
Yeah.
Au retour, on a d'autres bonnes chansons à vous faire découvrir et d'autres bonnes choses, comme des films à vous faire découvrir également.
Exactement. Brossez-vous les dents en attendant.
On se revoit dans quelques instants.
Yeah.
CKUOT 90.3 FM.
Bonjour, au lendemain de la veille. Oups, on arrête ça.
Ça repart, ça repart. Elle est en feu, là. Elle ne veut pas s'arrêter. Elle a de la publicité gratuite. Là.
C'était, en fait, juste pour recommencer, je disais qu'on est au lendemain de la veille sur les ondes de 90,3 FM CKUT.
Oui.
On vient d'écouter une pièce du groupe The Mysterines, qui est un jeune groupe plutôt actuel, plutôt récent, qui nous vient d'Angleterre, qui nous vient de Liverpool, pour être plus précis. Et sachez que si vous avez aimé ce que vous venez d'écouter, ben, ça donne que ce groupe vient à Montréal le 15 mai 2022. Et c'est au bar L'Escogriffe, sur la rue Saint-Denis. Donc, une super salle spectacle, vraiment une petite salle, mais qui est vraiment géniale pour voir des... ce genre de groupe de musique-là. De...
pour la découverte, mais ça va faire Liverpool, ça va faire comme si tu allais voir les Beatles, hein. C'est la petite caverne. Là.
L'autre grand groupe de Liverpool.
Tu vas les avoir à proximité de toi. Là.
Exactement, puis c'est vraiment pour un son rock garage comme ça, c'est comme parfait, là. Une petite salle comme ça. Avec fait que, ouais, exactement, donc on est chanceux. The Mysterines, comme je dis, c'est un quatuor de Liverpool qui sont dans la jeune vingtaine, ça fait à peine deux, trois ans qu'ils existent, là, du moins qu'on entend parler d'eux. Et ils viennent à Montréal. Quel hasard!
Ben merci pour la découverte, puis merci de m'annoncer ce spectacle-là. On va probablement aller faire un tour.
Fort probable.
C'est un dimanche, hein? C'est ça que tu as dit?
C'est un dimanche, le 15 mai. Effectivement, ouais. Wow, tu as comme bien... T'as un calendrier en tête, Marc-André?
Ouais. Non, mais ça fait une couple de fois qu'on regarde des spectacles, ça tombe les dimanches. Gros Soleil ont joué aux Haricots un dimanche.
Oui.
Qui est une salle de spectacle à Saint-Hyacinthe. Là, ça, c'est le dimanche. DOA, je pense, c'est un dimanche aussi. Fait que tout est... là, c'est comme la lutte. Si Dieu le veut, c'est le dimanche que ça se passe.
Fait que les lundis matin, ben, on colle malade parce que...
on est le lendemain de la veille, on est hangover, on est KO.
Vous écoutez notre émission?
Oui, le lendemain de la veille. Pas pour rien. Mais nous autres, on pète le feu. Tout à l'heure, je vous ai dit de vous brosser les dents. C'était pour une bonne raison. Mm-hmm. Parce que là, je vais vous donner des candies.
Épalaie.
Des bonbons. Je vais vous donner un bonbon que j'ai entre les mains.
Ah.
Mais je ne suis pas un inconnu, fait que tu peux l'accepter. Tiens, je t'en donne un. Faut que tu me répètes trois fois le nom de cette pochette-là.
Tu rêtes un peu, là, ton bonbon. Là.
Ouais. C'est pas par main.
Tu veux que... Quoi, pardon? Je répète...
Trois fois le titre de...
Trois ça. Fois... je sais pas. J'ai peur. Candyman, Candyman, Candyman.
Man. Et oui, la franchise Candyman, je suis excité de vous en parler ce matin, est de retour.
OK.
Et là c'est comme un revamp. Ouais, là, on peut s'attendre au pire, parce que là, c'est à la mode à Hollywood, on n'a plus d'histoire. On répète, fouille, on pète puis répète, ça monte en bateau, on fouille dans les tiroirs. « Hey, ce scénario-là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Chucky, Candyman, ta-ta-ta. » Là, on a Candyman, mais attention, un film de Nia DaCosta, okay. Jeune nouvelle réalisatrice, très prometteuse, mais produit par Jordan Peele.
Jordan Peele qui a fait...
Us.
Us et aussi un autre film d'horreur. Qui était, je crois, Get Out?
Get Out aussi.
C'est lui qui a fait
ouais,
ça, non?
Oui, ces deux-là. Ouais, oui, puis il en a fait un autre. Puis là, il produit à cette heure.
OK.
Fait qu'il est tellement occupé qu'il produit, il dit OK, ouais, c'est un bon projet, j'embarque, je vais aller chercher la bonne réalisatrice. Et là, il est allé chercher Nia DaCosta, qui est une fille prometteuse, très bonne réalisatrice. Et là, ça s'appelle Say It. Dites son nom. Say My Name. Candyman, en français, c'est le spectre maléfique.
Donc là, est-ce que c'est un remake de l'original ou c'est quoi exactement? C'est comme une suite?
Écoute bien ça. Non, c'est un peu les deux. C'est ouais. qu'ils gardent... OK, ils refont pas toute l'histoire. Ils refont pas l'origine. L'origine est déjà là. L'histoire est déjà implantée. Ils font une affaire qui est hallucinante pour raconter le passé. Au lieu de prendre des extraits du film ou de refaire des extraits ou des scènes importantes, ils ont décidé, en regardant le film, tu vas comprendre, c'est des ombres chinoises.
Okay.
C'est comme des silhouettes, comme le théâtre chinois à marionnettes là, pour enfants, tout ça. Et c'est des silhouettes qui nous narrent, qui nous racontent le passé de Candyman, la légende. Parce que
ouais.
Candyman, là, c'est quoi? C'est un boogeyman. C'est une légende urbaine. Fait qu'eux, au lieu de faire des flashbacks, ils ont décidé, on va vous raconter cette légende-là urbaine. Puis là, la légende urbaine, c'est que c'est comme une malédiction qui suit de génération en génération. L'histoire, en gros, de Candyman, là, c'est un certain Daniel Robitaille.
Daniel
Robitaille.
Hey, mais c'est-tu le frère de André Robitaille?
Peut-être, on ne sait pas.
OK.
Peut-être son cousin de la fesse gauche, je ne sais pas, son frère de la fesse gauche. Daniel Robitaille, c'est un peintre qui a un talent fou, puis qui tombe amoureux. C'est un peintre afro-américain, ça se passe aux États-Unis, dans le temps de la guerre de sécession. Et là, il a comme contrat, il est quand même un noble peintre très couru par l'aristocratie. C'est dur à dire le matin, ça. Et là, en peignant une jeune demoiselle, il tombe amoureux. Les deux tombent amoureux, ils se font la cour, elle tombe enceinte. Et là, ça passe pas. Parce que Daniel Robitaille est noir et la femme est blanche.
Okay.
Et là, bon, faut s'en mettre dans le contexte social américain de l'époque. Et là, il y a une mob. Il y a comme la mob locale. Là. Il y a comme une foule haineuse qui court après. Lui coupe sa main droite, qui est son gagne-pain, sa vie, parce qu'il peint de la main droite. Il l'enduit de miel et il meurt par les abeilles qu'il pique et l'attaque. Et ça, c'est la légende de Candyman.
Okay.
Et là, ça se propage, ça se transmet. Et quand tu regardes un miroir, l'histoire comme dans les autres Candyman, tu regardes dans le miroir, tu le prononces trois fois. Là, tu me regardais, fait que tu n'as pas de danger.
Ouais.
Et là, Candyman apparaît et vas mourir.
Puis là,
sa main droite,
Il y a comme un espèce de crochet.
Un hook, comme un capitaine crochet.
Ouais,
okay, ouais. Ça, cet univers-là, il est respecté, Mais là, tu connais Jordan Peele. Il y a un petit côté critique sociale, critique de l'injustice américaine.
Oui.
Là, il met en scène la brutalité policière qu'ont connue les États-Unis.
Oui, oui, oui.
Donc,
intéressant.
Oui, et là, c'est là que ça devient capoté.
OK.
Parce que là, ce boogeyman-là, il y a une raison de tuer.
C'est bon.
Ouais, non, c'est bon.
Ça donne vraiment envie de l'écouter.
Moi, j'ai vraiment aimé ça parce que je ne m'attendais pas à ça. Puis je me rappelais pas, honnêtement, je savais c'était quoi Candyman, mais ça fait quoi, là, des années 90?
Exact.
Là, long time ago, j'en ai vu. Mais aussi, il y a le making of. Puis dans le making of, il y a une affaire super intéressante que je trouve, en plus de découvrir qui a fait la composition j'ai nommé le compositeur de musique tout de suite parce que image solide, ça prend une trame sonore solide. Et là, c'est un certain Robert Aki Obrez, je ne sais pas comment le prononcer, Lowe, qui est un bruiteur. Il fait beaucoup de bruit. Il fait des choses. Il transforme dans des pédales de distorsion, tout ça. Mais il est très influencé par Philip Glass.
OK.
Qu'on connaît.
Oui.
Fait qu'il y a un côté musique actuelle, musique contemporaine. C'est oppressant, c'est des sons. Tu sais, c'est pas comme la musique, là. C'est du son.
Oui.
C'est du son. Fait que c'est ça qui fait que c'est solide.
C'est rythmique aussi, répétitif.
Oui. Puis, tu sais, agressant, c'est pesant, c'est lourd.
Ah, wow.
Quand tu l'écoutes, là, en 5.1, là, en surround, là, t'as du son qui sort de partout, là.
OK.
Ça dégouline de sons impressionnants. Et là, il y a une autre affaire aussi qu'on apprend, comme je te disais dans le Making of, c'est qu'ils sont allés voir Manual Cinema. Qui est Manual Cinema? C'est une compagnie qui fait du théâtre de l'ombre, des marionnettes de sobres, mais très sombres. Et ils ont pu développer le côté mythologique puis la violence sans la montrer.
Ouais.
Ben oui, il y a montre, là, mais je veux dire, tu sais, c'est pas graphique, mais c'est des marionnettes, c'est des ombres que tu vois, il y a une main qui part, tu sais. Fait que c'est juste pour ça. Aimez pas le film, mais juste pour ça, je pense que ça vaut le déplacement.
Parce que ça aurait été fait donc avec des vraies marionnettes, cette séquence-là.
Oui, c'est filmé. Ouais. C'est pas de l'animation digitale.
Okay.
C'est vraiment une vraie compagnie qui existe.
Ah, génial.
Qui fait ça, qui ont modifié leurs marionnettes, qu'ils ont faites spécialement pour le film. Fait que là, comme je te disais, il passe un message social. On parle des traumatismes que la communauté afro-américaine a subi et continue de subir. Et là, qu'est-ce qu'on apprend avec différents spécialistes qui sont alentour d'une table avec un des acteurs principaux? Il parle de l'horreur psychologique. Mm-hmm. Fait que là, la nouvelle horreur de Jordan, de d'autres réalisateurs, c'est pas nécessairement du gore, c'est pas du slasher movie, c'est plus de l'horreur psychologique, de l'horreur endémique de, tu sais, sociétale, là, tu sais, des choses, là, tu sais, du racisme institutionnel, des choses qui font que... Exemple, dans le film, ils sont allés filmer sur un site, je vais essayer de retrouver le nom, ça s'appelle, c'est un ghetto à Chicago, ils sont allés tourner là, in situ, là, sur place, là. C'est pas en studio, ça s'appelle Cabrini Green. Et c'était des maisons à prix modique, là, comme des HLM, mais c'était abandonné, fait qu'ils sont placardés. Ils ont eu une permission de la ville, j'imagine. Ils sont allés filmer là. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont modifié ou non, mais les structures de des maisons sont là. Puis si tu vois le centre-ville un peu comme en background ou pas loin,
okay, ouais.
Ça pourrait presque ressembler. Là. Puis là, je ne sais pas de... Tu sais, il n'y a rien de...
D'équivalent,
mais je ne veux pas non plus... Il n'y a pas de... Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je veux dire, mais c'est comme un petit peu les habitations Jeanne-Mance au centre-ville de Montréal. Tu sais, c'est des maisons townhouse à prix modique, tout ça, entourées de gratte-ciel, entourées du centre-ville. Fait que c'est un peu la même ambiance, si tu veux.
OK.
Puis là, fait que là, les maisons-là sont abandonnées dans l'histoire, dans le film, et là, sont placardées avec des planches, sont trouées, il y a plein d'affaires qui se passent, il y a des graffitis sur des murs, et là, l'action se déroule là. Mais c'est ils ont tourné une place qui existe vraiment. Fait que ça a donné une crédibilité encore plus à l'histoire, à la légende de Candyman, parce que dans la communauté afro-américaine, c'est comme le bonhomme 7 heures, c'est comme s'il existait. Pour eux, c'est comme leur Freddy Krueger, c'est comme leur Jason de Friday the 13th. Ils se sont réappropriés, parce qu'avant Candyman, il n'y avait pas beaucoup de films d'horreur qui s'adressaient spécifiquement à la communauté afro-américaine.
D'accord.
Ouais. Il en consommait, mais il n'y avait pas...
Il n'en faisait pas partie, souvent. C'était très blanc, les films d'horreur.
Exactement. Mais
encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Exact.
Donc, c'est vraiment intéressant. Une nouvelle dimension, un classique du cinéma d'horreur. On a vu récemment aussi des... On appelle ça, je pense, comme tu l'as dit, des revamps. Là. C'est comme un remake, mais... reboot.
Oui. Qui n'apporte pas tout le temps grand-chose.
Non,
chose
c'est pas toujours
nouveau,
pertinent. Hein. Puis, on a souvent l'impression que c'est vraiment un objectif commercial uniquement, là, pas tant pour le film. Mais récemment, je pense qu'il y avait Halloween qui ont fait ça aussi.
Ouais.
Scream. Ils ont sorti un nouveau Scream qui s'appelle juste Scream, pas le Scream.
Mais moi, les Halloween, avant parce qu'on dirait qu'il y a eu comme trois périodes Halloween, la première, l'originale. Après ça, la deuxième avec Rob Zombie, le réalisateur de films d'horreur, et Mr. White Zombie, que j'ai trouvé très bonne quand même. C'était cool. Et là, ils ont fait, puis ça n'amène à rien. Là. C'est comme been there, done that. Ouais. Mais dernière petite chose sur ça, tu sais, comme tout ce qui est intéressant du film, c'est pas comme c'est ça, c'est l'espèce d'horreur psychologique. Comme je te disais, la brutalité policière avec qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis, la tension raciale, l'histoire de l'esclavage. Mais qu'est-ce qui est vraiment cool aussi, c'est la gentrification de quartier.
Ah!
Et là, il frappe fort aussi.
OK.
Fait que moi, je vous le conseille, Candyman, le spectre maléfique. Say it, dites son nom trois fois, il va apparaître. Un film de Nia DaCosta, qui est vraiment une jeune réalisatrice bourrée de talent, très ingénieuse. Et il y a le côté aussi, tu sais que moi j'aime la peinture, le dessin, il y a un côté art visuel très fort dans le film, parce que M. Robitaille, c'est un peintre. Et le nouveau personnage qui est là aussi, qui va comme être influencé par cette onde-là du Candyman, est un peintre aussi. Ils sont allés chercher des peintres afro-américains aux États-Unis qui sont la nouvelle génération, les nouveaux loups. Et dans le documentaire, on va voir qui sont allés voir. Puis juste ça aussi, le petit côté documentaire, des artistes qui ont des lofts avec des toiles immenses qui sont des critiques sociales. On en voit dans le film parce qu'il y a une exposition d'un des comédiens, d'un des protagonistes du film. Et t'as tout. Du bon son, de la belle image, un propos pertinent.
Mais moi, j'ai une question pour toi, Marc-André.
Oh non, ça me fait peur, ça.
Est-ce que t'as eu peur en écoutant ce film?
Non, mais il y a une tension.
OK.
Non.
C'était peut-être pas voulu non plus que ce soit très épeurant, tu vas me dire?
Non, c'est pas... il y a une fois que tu sautes, par exemple, puis il y a une place que tu sais pas où est-ce qu'ils s'en vont, mais overall, c'est bien ficelé, puis j'imagine... J'espère qu'ils vont pas, tu sais, je veux pas qu'ils repartent la franchise nécessairement, mais le Candyman, c'est le même que des trois films. Ils sont allés rechercher l'acteur original, là, que j'ai oublié son nom, puis là, toi, t'as des lunettes, là, on va voir...
Donne-moi ton document.
Ouais, mais je le vois pas de proche, ouais, je le vois pas de si proche. Candyman, Boogeyman...
C'est possiblement Yahya Abdul-Mateen, je crois.
Ça se peut fort bien.
Je ne connais pas. Oui, c'est lui. Yahya Abdul-Mateen. Ouais. OK. On surveille ça, Candyman?
Oui.
Allez chercher ça, c'est chez votre club vidéo du quartier.
Oui, c'est le Blockbuster.
Ou le Super Club.
Il y en reste un, Super Club
international,
Vidéo. International.
Club Vidéo International de Montréal.
Oui. Le Blockbuster qui est le dernier aux États-Unis. j'ai-tu le temps de dire d'autres petites choses?
Il nous reste un bon 10 minutes à l'émission.
Puis j'ai encore de la bonne musique à mettre. Ça va être difficile.
On peut aller à la musique si tu veux. Ou on peut aller avec une autre bande dessinée.
Non, c'était même pas une bande dessinée. Là, je parle pas dans le micro. Ça, le monde n'aimeront pas ça. Je cherche, mais je ne trouve pas. Je cherche et je trouve. Ça, c'est-tu pas merveilleux? On est passé du film, je reviens sur un livre qui est pour, on pourrait croire, pour les enfants, mais qui s'adresse aux 7 à 77 ans. C'est vraiment merveilleux. C'est une de mes autrices préférées au Québec, on va dire en littérature jeunesse. C'est Élise Gravel.
Ah, ben oui!
Qui en a écrit plusieurs et qui a sorti une nouvelle série qui s'appelle Arlo et Pips. Arlo, c'est un... Là, je ne sais pas qui est Arlo, qui est Pips. Je pense Arlo, c'est le corbeau, puis Pips, c'est le petit serin jaune. Là, c'est son deuxième. C'est sûr qu'il y en a un troisième qui s'en vient. Ça s'appelle La clique des corbeaux. Et là, qu'est-ce qui est bien, c'est que vos enfants vont lâcher la tablette, ils vont lâcher l'ordinateur, leur Game Boy, name it. Tu leur donnes ce livre-là entre les mains, ils vont le dévorer. Ma fille en est l'exemple parfait.
C'est illustré et écrit par Élise Gravel.
Très bien de le dire.
Donc, ouais, parce que Élise Gravel, elle a fait beaucoup de livres qu'elle n'a pas illustrés. Mais sa signature d'illustration, si on peut dire, sa plume, c'est vraiment des dessins très gros, très noirs, très naïfs,
oui.
Très simples.
Mais efficaces.
Mais très cute et vraiment efficace, vraiment adorable.
Et là, dans celui-là, Élise Gravel a dit qu'elle aime les animaux, en particulier ses deux chats, même s'ils ne sont pas aussi intelligents qu'Arlo, c'est le corbeau, ils sont quand même drôles. Justement, drôle, c'est que c'est divertissant, mais en même temps, vos enfants et même vous allez apprendre des choses.
OK.
Les corbeaux, c'est très intelligent. Ne leur lancez surtout pas de pierre.
OK.
Non, mais vraiment.
Pas de fromage non plus.
Pas de fromage, oui. Maître Corbeau, t'es capable de rester un...
Non, merci.
Non, merci ce matin. Gros défi.
Et pas là, la fontaine, c'est lointain, toi.
Oui, ouais. Pas que la fontaine aussi. Tout ça pour dire, dans l'histoire, on apprend que les corbeaux sont vraiment intelligents. Moi, j'en avais vu glisser sur une espèce de toit enneigé. Il faisait presque du snowboard. Il glissait. C'est même pas monté, c'est the real thing. Et là, dans l'histoire, le corbeau trouve une bouteille d'eau. Il a soif, elle est ouverte, mais l'eau est trop basse. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il prend des pierres et en pitch dans le goulot de la bouteille. Et là, le niveau de l'eau monte et il peut boire. Il fait la même chose pour son ami, il rajoute des pierres, l'eau en monte, son ami Corbeau peut boire, et Pip aussi peut boire, tout le monde peut boire. Et là, ça, je venais de lire il y a à peu près 2 jours, et là, j'en ai pas parlé, là, je l'ai lu, c'était dans ma tête, à moins que le 5G est fort, sur Instagram ou sur un réseau social, paf, il y a une vidéo qui apparaît, c'est le vidéo exact d'un corbeau qui prend des pierres, qui les met dans une
bouteille. Ah ouais.
Fait que c'est pas du pipeau, c'est vrai. C'est okay. vrai. Il y a des anecdotes que c'est des blagues et il y a des choses qui sont vraies. Fait qu'on apprend des choses. La clique des corbeaux. Élise Gravel, c'est le deuxième. Il va en avoir d'autres. Il y a le premier aussi. Élise Gravel, tout ce qu'elle a fait, ma fille et moi, on adore.
Oui, vraiment.
Le Great Grand Antonio. Le Grand Antonio.
Oui. C'est très beau. C'est un très beau livre. Que j'ai beaucoup de plaisir à lire, et que j'ai encore beaucoup de plaisir à lire avec mon plus jeune. Et un autre des livres préférés, mon plus jeune, de Élise Gravel, c'est, sauf erreur le titre, là, je pense que c'est bon, c'est La pire histoire du monde, ou Le pire livre du monde.
Oui, c'est ça.
Où est-ce qu'il y a comme une mise en abîme de deux personnages qui commentent le livre au fur et à mesure, qui est un livre qui est plus ou moins intéressant, avec un récit un peu boboche. Mais ce qui est super drôle, c'est les personnages secondaires qui lisent le livre en même temps que nous.
Puis qui le critiquent.
Puis qui le critiquent, qui commentent et qui proposent des choses. Mon garçon adore ce livre-là. Il le trouve... Il en rit vraiment à chaque fois.
Comme si c'était une joke qu'il n'avait jamais entendue.
Oui, vraiment.
Est-ce que c'est dans ce livre-là qu'il y a une page à déchirer?
Fin,
il y a comme un coin...
Il y a comme une gomme, il y a comme une tache de gomme ou de café, je crois.
OK, dans celui-là, c'est ça. OK, mais il y en a un autre, c'est déchiré, puis dire vous allez être responsable du livre déchiré. mais le livre est construit et fabriqué avec une page comme un peu en oblique. Là,
OK, puis il est déjà coupé comme ça.
Il est déjà coupé, fait que c'est très bon.
Ah non, c'est vraiment génial.
Ouais, elle est très imaginative, elle a un talent fou. Et là, on s'asseye-tu en musique?
Il nous reste un petit 5 minutes à l'émission.
Bon, allons-y en musique.
Allons-y. Est-ce qu'on finit l'émission en musique, Marc-André?
On va voir qu'est-ce qui va rester. Essayez de reconnaître la chanson.
On va peser sur play un moment donné.
Un moment donné, on va peser sur play.
un moment donné, ça va embarquer.
On va...
the Pierre, she loved Mademoiselle. And now the young Monsieur and Madame are from the Chapel Bell. C'est la vie, c'est the old folk. It goes to show you never can tell. They finished up the apartment with the two-room Roebuck cell. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, that little money coming worked out well. C'est la vie, says the old folk. It goes to show you never can tell. They had a hot top on a boy, and they let it last. 700 little records all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, says the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped-up chimney with a cherry red 53. They drove it down to Orleans to celebrate their anniversary. It was there that Pierre married lovely Mademoiselle. C'est la vie, says the old folks. It goes to show you never can tell. Chapel Bell. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell.
Écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce d'un super groupe local.
Cayman and the 45.
Cayman and the 45s avec l'album Stand with the Youth.
C'est leur troisième album, le dernier à ce jour, je crois, qui est sorti tout récemment sur Stomp Records. J'avais dit qu'on allait en reparler. Et là, t'as-tu reconnu le même, c'était version reggae, skanky?
Oui, c'était Chuck Berry.
Yes, Never Can Tell.
Qu'on avait entendu notamment dans Pulp Fiction il y a plusieurs années.
Oui, qui est sur la trame sonore de M. Quentin Tarantino. Fait que c'est un classique que tout le monde se reprend, et je trouve qu'ils font bien.
Vraiment bien.
C'est très cool, très smooth. Cayman and the 45s, c'est qui? C'est Kristen Cayman Daniel, qui est au vocal à la guitare, celui que vous avez entendu chanter. François Charles Frankie Poirier, bass et vocal. Joshua Michaud, trombone vocal. Mathieu Forget, saxophone vocal. Paulo Max Ricardo, drum and vocals. Et là aussi, sur l'album, on a des guests, des apparences, des all-stars de Sébastien Fournier à la trompette, Julien Carl Saint-Pierre au keys, ça veut dire au keyboard, et Alex Giguère aux percussions.
Donc, Cayman and the 45, on va essayer de les attraper en spectacle
sous peu.
Dans une scène près de chez vous. Ils sont souvent en spectacle à Montréal, comme ils viennent ici, ou en tournée. Puis, excellent. Oui, vraiment, encourageons les groupes locaux parce que ça vaut la peine. Il y a du talent. C'est déjà la fin de l'émission, Marc-André. Je te coupe ça comme ça.
Oui.
Le chrono nous dicte le...
Le temps.
Le temps, c'est comme ça que ça marche.
Le temps, c'est cool. Et on vous rejoint la semaine prochaine. pour une autre émission du lendemain de la veille.
Bye bye.
Bye bye.
Today's hottest artist, Karol G. Strip Love Tour. In concert. Saturday, September 17th at Bell Center. Get tickets now at KarolGMusic.com. Karol G. Strip Love Tour.
One Stop Caribbean Cuisine is the place to be. The best tasting food, West Indian food. Check it out.
334
St. Jacques Street.
The one and only.
Chef X. And the best. Everyone calling up his name, talking about him.
All type of food ready right there.
Fish, vegetable,
oxtail,
curry goat,
jerk chicken.
That same tasting Caribbean food in a Montreal. And then me go when me left Jamaica.
Go there right now. The food delicious.
Delicious.
West Indian Caribbean Cuisine.
I will be there. Check it out. Check it out.
One Stop Caribbean Cuisine is the place to be.